Imaginaire, c'est le rendez-vous incontournable pour les amoureux et amoureuses de la pop culture. Un mardi sur deux à 21h, on parle littérature populaire, mais aussi jeux, ciné, séries, avec des chroniques, des interviews, sans oublier les invités et l'actualité. Imaginaire, c'est un mardi sur deux à 21h sur Radio G 101.5.
Vous êtes à l'écoute Imaginaire sur le 101.5. L'équipe part en vacances, mais nous vous avons enregistré quelques chroniques. Et donc, jusqu'à 22h, nous écouterons les coups de cœur de Karine, Jean-Hugues et Pierre-Marie. On commence l'émission en musique avec le premier mouvement de la suite Nihonkai de Shisato Yamada. Ça a été enregistré en 1981 et ça a été réédité l'année dernière chez Cinédélic.
Je vais vous présenter le premier tome d'Un certain goût de plomb d'Arnaud Cazel. Arnaud Cazel nous propose ici un récit pour le moins très noir. Dès les premières lignes, il y a du sang, de la guerre, du chaos. Nous sommes projetés en pleine guerre des jabots. Nous avons d'un côté le baron de Parcendre et d'un autre les baronnies. Face à cette guerre et les désirs de conquête de ce baron, aucun village du continent n'est épargné. C'est ainsi que le lecteur rencontre notamment Charlize, une petite fille qui, ayant été arrachée à ses parents par le colonel Dusneau, va se lier malgré elle à deux sort-la-loi. Dans ce roman, Arnaud Cazel met l'accent sur les personnages avant tout. En effet, ils sont complexes et multiples, ce qui a des avantages. On explore toutes les facettes de l'humain, les perceptions, les émotions, les liens entre les personnages, le langage. Tous ont une importance et tous prennent des coups. Ce qui donne de nombreux rebondissements à l'histoire, le contexte n'est pour autant pas délaissé, l'auteur a une volonté de précision. Et Balle perdue est un roman choral qui s'insère dans le genre de la wild fantasy. Il aborde un panel de thématiques qui rend le contexte justement très intéressant. L'esclavagisme, la vengeance, la rédemption, la perte d'innocence, la quête d'identité et d'acceptation de soi, le dépassement de sa condition, la trahison et le deuil. Je vous invite donc à découvrir un univers qui s'éloigne de la fantaisie traditionnelle avec une très belle plume qui nous emporte aisément dans un univers western. Arnaud Cazel est un jeune auteur dont Un certain goût de plomb est le premier roman publié chez Oneri. Un second roman dans un autre univers, toujours fantaisie quand même, a été publié depuis chez les Trois Nornes, Nous regrettons la mort. Donc vous avez deux possibilités pour découvrir cet auteur et cette plume. Et je vous propose maintenant d'écouter Ordon Hogan avec la chanson Gunman sur Radio G. We'll be right back.
Félicitations, Reggie, c'est un calamar.
Chers auditeurs, chers Romains, chers condisciples, ma chérie, bonjour. Alors, j'ai lu des trucs. Alors, il faut savoir qu'à Imaginaire, on a un Sébastien, qui est un spécialiste du livre interactif. Alors, un livre interactif, c'est tout livre que l'on ne se contente pas simplement de lire. Mais on se livre à des actes de réflexion afin de résoudre, par exemple, des énigmes. Alors, c'est, par exemple, les anciens livres dont vous êtes le héros. Maintenant, Escape Book aussi. Et j'ai pratiqué ce genre de choses dans les traductions qu'avait faites Gallimard chez Folio Junior, d'ouvrages qui avaient été réalisés à l'époque par Ian Livingstone et consorts. Alors, il faut savoir que ce type d'ouvrage a eu son heure de gloire. Ça a émerveillé même les instits qui voyaient leurs élèves qui étaient réfractaires à la lecture au point de refuser de lire des BD, qui se lançaient avec avidité dans la lecture de ces aventures où ils étaient enfin des héros. Inutile de dire que les progrès effectués dans le domaine des jeux vidéo ont un peu tué la chose, mais quelques fidèles restent, dont le fameux Sébastien d'Imaginaire, et continuent avec une obstination digne d'éloge de tenter de laisser survivre la bête. Escape Game naissant, on assiste aujourd'hui à une résurrection de ce style d'ouvrage avec un succès mitigé. Alors, Arthur Tenor, dont je vais vous parler là, est un écrivain jeunesse à succès qui a écrit plus de 160 romans en 25 ans et qui nous livre chez Scrineo, collection Enquête, un incarné Sherlock Holmes dans l'affaire Les Wings. Tout ça pour une quinzaine d'euros. Alors, vous me connaissez, il y a Sherlock Holmes dans le titre, alors pourquoi ne pas essayer ? Alors, en fait, il s'agit d'un roman classique où, de temps à autre, l'auteur interpelle le lecteur, bon, en le tutoyant, en mode « Alors, quels indices as-tu trouvé, toi, qui incarne Sherlock ?» suivi de quelques pages blanches pour prendre tes notes sur le bouquin. Et après, on continue le roman où le détective donne ses propres indices. Bon, j'ai pas trouvé ça super amusant et j'ai donc continué la lecture de manière classique. Alors, parlons du récit en lui-même. Alors, le canon holmésien n'est pas du tout respecté. Alors, ne serait-ce que le bouquin qui commence par un duel de canne-épée entre Sherlock et Watson afin de savoir lequel des deux est le plus viril. Bon, Watson est assez sec avec Holmes et il s'avère que le récit est écrit en jeu et a pour narrateur Sherlock Holmes lui-même. Donc, le canon aux ordures. Reste l'enquête à laquelle, je l'avoue, j'ai pris beaucoup de plaisir parce qu'elle est plutôt maligne. Elle a des pleurs d'oignons très bien construites. Arthur connaît la musique, donc le style est simplissime mais efficace. Bon, je vous avoue que j'ai été un petit peu désabusé malgré tout. Du coup, j'ai pris dans ma bibliothèque à lire. Oui, il y a des gens qui ont des piles à lire. Moi, j'ai des bibliothèques à lire. Une balle, ça s'appelle. Alors, j'ai pris une gourmandise que je réservais à une occasion de ce style et j'ai lu Einstein et Sherlock Holmes dans la collection Rivage Mystère. Ça a été réédité en Rivage Noir pour un peu moins de 9 euros et j'avoue avoir passé un bon moment. Mais je m'attendais à mieux. Le roman hésite avec lourdeur entre le pastiche et la parodie. Alors, l'histoire, Holmes est en retraite dans le Sussex et il élève des abeilles. Il demande à Watson de venir le voir pour l'envoyer à Berne, où un homme est mort dans des circonstances pour le moins étranges. Alors, c'est un des intérêts du roman, il se déroule quasi exclusivement en Suisse. Alors, le pauvre Watson va tomber dans une spirale cauchemardesque où, après la découverte d'un club de scientifiques spécialisés dans le mouvement perpétuel, il va être victime d'un savant fou qui va lui inoculer une substance qui va être transformée par période en obsédé sexuel priapique et il ne va pas se priver le petit Watson. Sherlock va vite rejoindre Watson à Berne où il sera séduit par l'intelligence d'Einstein qui fait partie d'un groupe comprenant entre autres Lénine et Mussolini. Alors les deux, Einstein et Sherlock, se livreront à des conversations retranscrites par l'auteur dont l'intérêt pour le lecteur reste, on va dire, modeste. Les crimes se déroulant dans cette belle ville de Berne auront comme thème les lois de la thermodynamique et ça c'est assez rigolo. Mais que vient faire la pimpante Adler dans cette histoire ? À part tomber sous Watson lors d'une de ses crises ? Bon, aussi fouillis et bestringues que soit le roman, il possède une base solide de documentation et il y a quelques éclairs de bon goût. Du coup, je suis allé regarder les 10 premières saisons d'une série plutôt calme, Les Enquêtes de Murdoch. Ça se déroule autour de 1900, on y assiste d'ailleurs au changement de siècle, dans la ville de Toronto. Non, Toronto, c'est pas un héros de manga, c'est une ville du Canada. Alors ça se déroule en costume et véhicule d'époque et c'est plutôt sympathique. En même temps, vous allez me dire que se taper 10 saisons d'un truc qu'on trouve nul, bon. Alors, femme de série d'action, par contre, passez votre chemin, puisque la majorité des poursuites se passent en vélo, et que les cyclistes ne se dopent pas d'un brin, ce qui n'est pas à la mode, il faut bien le reconnaître. Alors, ça se déroule au poste 4 de la police de Toronto, et le héros principal est donc l'inspecteur Medoc, qui est un excellent policier catholique. Alors, ce qui empêche sa promotion, du coup, puisque sa hiérarchie est essentiellement protestante. Alors, disons-le tout net, malgré sa jolie gueule de Bob Moran, Murdoch a un petit côté passéiste du point de vue moral. Alors, ça n'a pas que des défauts, puisque du coup, il est incorruptible et d'une honnêteté sans faille. Mais quel intérêt, me direz-vous ? Eh bien, c'est aussi un scientifique qui va appliquer ses connaissances pour l'aider à résoudre ses enquêtes. Alors, il utilise des détecteurs de mensonges, des UV, des amplificateurs de lumière. Il met au point des empreintes digitales et plein d'autres choses de ce genre. Les personnages secondaires enrichissent magnifiquement le personnage qui est un peu falou, faut bien le dire. Alors tout d'abord, il y a le docteur Ogden, qui est une jeune femme ravissante, qui est légiste, suffragette, intelligente, à l'esprit ouvert. Et elle le trouve très à son goût, le Murdoch. Mais celui-là, c'est un petit peu un empoté de première. L'inspecteur en chef, Bracken Reed, un bon anglais un peu brutal et sec, mais qui s'avéra d'une grande humanité et un véritable ami des autres héros. Et enfin, le constable George Crabtree, alors qui est un orphelin, qui a été élevé dans une maison close. Comme quoi, il a l'esprit ouvert, du coup. Lui aussi, il va se lancer dans l'écriture de romans d'aventure, dont l'imagination mettra souvent à émettre des déductions loufoques qui frisent le fantastique. Mais c'est lui qui apporte la touche d'humour la plus poussée dans la série. Alors lui aussi, il suivra Murdoch jusqu'à la mort. Outre ces personnages, ma foi, très sympathiques, on rencontrera dans les épisodes des personnages célèbres. Alors, je vous l'ai fait dans le désordre, et il y en a bien d'autres. Et par exemple, Edison, Tesla, Doyle, Lovecraft même, et même Sherlock Holmes. Oui, je vous laisse découvrir pourquoi. Alors, les arcs narratifs sont classiques, avec de très très bons méchants, et des histoires un peu l'eau de rose, mais la mayonnaise prend très bien. Et c'est le conseil de visionnage calme des vacances que je vous donnerai.
Elder dans Imaginaire sur le 101.5 avec le morceau The Purpose, dernière piste de leur nouvel album The Innate Passage. Vous verrez peut-être le groupe en concert au Motocultor le dimanche 20 août cet été.
Bonjour à tous, salut Romain, merci de me permettre de parler d'un livre qui m'a marqué, qui n'est pas une nouveauté pour une fois, parce que bon, c'est les vacances et j'ai décidé de me replonger avec allégresse dans des romans que j'ai appréciés mais que je n'ai pas su apprécier à leur juste valeur pris par le temps. Et du temps, je n'en avais pas dans les années 2020-2021, année auquel est sorti ce roman, puisque bah, c'était la période Covid. Que pour des raisons personnelles et professionnelles, je n'avais pas beaucoup de temps pour lire. Du coup, j'avais très très rapidement, pas lu, mais parcouru pas mal de livres pour savoir, pour me tenir un peu au courant, et puis pour ce qui était des invités pour les éditions Imaginaires qui avaient été un peu tronquées. Et à ce moment-là, Les Forges Vulcains faisaient une entrée fracassante dans les littératures de l'imaginaire, puisqu'ils ont quand même une large réputation, et d'ailleurs ils ont eu un prix littéraire à ce sujet-là pour La Blanche, mais ils n'étaient pas trop dans les rayons fantasy, fantastique, science-fiction. Et comme je le disais, 2020, c'est le moment de la consécration, puisque notre cher David Meulement fait rentrer dans son écurie un auteur, Gilberto Villarroel, qui habite à Paris et qui nous vient du Chili, et qui a un roman et un deuxième roman en préparation qui se passe au Chili, enfin qui sont sortis au Chili et qui sont traduits de l'espagnol chilien par Jacques Fuentalba, à l'époque auteur de d'Imaginaire assez reconnu. Alors bon, pour les connaisseurs, plus de doutes, plus de secrets, il s'agit de Cochrane versus Cthulhu. Cthulhu, ça dépend un petit peu des prononciations, et d'ailleurs c'est un trait d'esprit qui revient à l'intérieur du bouquin, puisque à l'origine le nom de ce grand ancien est fait pour être prononcé sous l'eau. Et bon, bah, on est dans l'atmosphère, alors le son n'a pas la même sonorité que sous l'eau. Qui est Cochrane, qui est Cthulhu? Cthulhu, grand ancien que je viens de dire, fait partie d'un panthéon qui a été imaginé au début du XXe siècle par Lovecraft. Une créature qui n'existe pas et qui brille par son absence dans la plupart de ses romans, puisque le but de la plupart des aventures qui relatent son nom, c'est de faire en sorte qu'il ne vienne pas, qu'on ne le voit pas. Et d'ailleurs, tous ceux qui croisent son nom finissent ou morts ou fous.
Tiens, ce qu'on pense manifester là.
Ouais, bah, la rumeur dit que quand tu l'appelles trois fois, il finit par se manifester.
Bon, Cthulhu dort au fond de l'eau,
dans sa cité de Hlié, la morte, mais ne peut pas mourir, ce qui déjà est mort, et même la mort peut rêver. C'est les célèbres strophes qu'on trouve à l'entrée de Hlié, la ville où Cthulhu dort. Et qui est Cochrane? Cochrane, lui, par contre, c'est un personnage qui est réel. C'est un amiral, c'est un général amiral anglais, pendant la guerre napoléonienne, qui a été un énorme ennemi de la France, un élève de Nelson, du Lord Nelson, et qui a notamment participé à l'affaire des Brûlots. Qu'est-ce que l'affaire des Brûlots? En 1805-1810, la totalité de la flotte française pour aller pourrir les voies d'approvisionnement anglaises se retrouve dans la baie du Fort Dax, donc sur nos côtes atlantiques. Alors tous les navires français sont regroupés ici en position de défense. Les Anglais sont à l'extérieur, ne veulent pas s'approcher pour éviter de se faire pourrir. Napoléon est en train de construire le fort d'Aix et puis ce qui deviendra le fort Boyard. Et Cochrane arrive et il a qu'un seul ordre, c'est dégager les amiraux un peu timorés en britannique et pourrir la flotte française. Il charge donc deux bateaux, deux chaloupes remplies de poudre et de feu et il les envoie droit vers la flotte qui va décimer la moitié de la flotte française. C'est ce qu'on appelle l'affaire des Brûlots. Et c'est à ce moment-là que Lord Cochrane devient l'ennemi juré de l'empereur. Il n'a pas fait que ça, puisque dans la réalité, Lord Cochrane devait aller finalement, après les exils, sauver Napoléon de l'île d'Elbe, mais par manque de temps, puisqu'il participait à la révolution chilienne, il ne s'est pas arrêté à l'île d'Elbe et il a directement aidé à la révolution chilienne. Raison pour laquelle, en France, on le connaît assez peu, alors que c'est un héros national britannique et Amérique latine. Et qu'est-ce qui se passe dedans ? Et bien là, nous sommes dans une réalité. Ce roman se passe sur un laps de temps historique. Nous sommes en 1809 et Napoléon est revenu de son premier exil. Il commence à reconquérir la France. Et parmi les premières choses qu'il a fait, c'est il faut réarmer la France maritimement. Il a déjà son armée terrestre. Et surtout, il faut la protéger. Il faut protéger les arsenals de Rochefort. Et donc, construire Fort Boyard. Et là, vous me dites, normalement, il y a un souci. Fort Boyard, c'est 1850, beaucoup plus tard. Et vous avez raison. Il y a bien sûr une liberté qu'a pris Gilberto en faisant créer ce Fort Boyard en avance. Et pourquoi est-ce qu'on le crée si tôt ? Eh bien, c'est très simple. Dans les années 1805, au moment où on commence à vouloir créer Fort Boyard, ce qui ne sera jamais achevé au moment de l'affaire d'Ipolo, eh bien, il y a les terrasseurs français de Boyardville qui tombent sur une très très vieille pierre avec des inscriptions bizarres et une statuette représentant une créature énorme avec des ailes de chauve-souris et une tête de sèche. Et personne ne comprend rien. Bon. Ça en reste là, les événements historiques se passent, et en 1810, au moment où Napoléon revient, Napoléon se dit, il y a quand même des choses bizarres dans le coin, il faut enquêter un petit peu, et puis il faut y aller doucement. Et Fort Boyard, à l'époque, donc dans le roman, est occupé par une trentaine de personnes, des artilleurs et quelques cavaliers dedans, puisque la cavalerie pouvait aussi se charger de garnison, et le capitaine des dragons de la garde impériale y est présent avec comme seul ordre secret d'attendre deux spécialistes du monde antique à Fort Boyard pour regarder un petit peu ce que c'est cette pierre et cette statue. Sauf que voilà, par un soir, une des patrouilles maritimes autour de Fort Boyard tombe sur une chaloupe à bord duquel il y a trois marins, trois tuniques rouges, donc les soldats de l'infanterie britannique, et Lord Cochrane. Qu'est-ce qu'il fait là ? Ben, c'est très simple, Lord Cochrane, à cette époque-là, il a été démis de ses fonctions, déchu de ses titres et de tous ses avantages, et il est emprisonné, il s'est évadé, et on ne sait pas trop ce qu'il fait. Dans l'histoire, enfin dans la réalité, dans l'histoire... Gilberto part du principe qu'il est venu faire quelques repérages en France pour un coup d'éclat et pour restaurer sa renommée et sa gloire. Et il s'est fait choper par les Français. Il se fait choper, il se fait enfermer, et au moment où il se fait enfermer, il réussit plus ou moins à s'évader, et au moment de pouvoir repartir de Fort Boyard, une délégation arrive, celle qu'attendait le capitaine Éonnette, qui comprend des agents secrets de la police secrète de Napoléon et les spécialistes, les célèbres frères Champollion. Et à partir de là, la grande question pour les Français, c'est pourquoi il y a cette pierre-là ? Et Lord Cochrane qui se demande qu'est-ce que foutent les Français dans le coin ? Pourquoi tant de secrets ? Et est-ce que c'est dangereux pour l'Empire britannique ? Je vous spoil un petit peu, Cthulhu n'est dans aucun camp, sinon le sien, et l'être humain ne mérite pas de vivre, quelle que soit sa nationalité. Il y a quelques coups bas, quelques trahisons, beaucoup d'alliances de circonstances et quelques combats épiques. On y retrouve pas mal de créatures du mythe de Lovecraft et énormément d'héroïsme. Un petit peu à la con quand même, parce que face à la mort, au bout d'un moment, ça serait pas mal de fuir. Mais la beauté du roman et la grandeur des personnages qui sont historiques pour le coup, puisque ça fait partie aussi des romans les plus documentés, vous avez toute une bibliographie à la fin qui vous explique effectivement d'où sont tirées toutes les références que vous trouvez dans ce bouquin, ça vous explique aussi pourquoi ce roman se construit comme ça et pourquoi il est plausible, mis à part le mythe. Donc non, vraiment une bonne lecture que j'ai pris plaisir à lire, d'abord pour la plongée historique, et puis aussi parce que un personnage historique face à Cthulhu, ça ressemble à du pulp, ça ressemble à de la mauvaise blague, et ça reste de la bonne littérature. Je suis incapable de juger de la qualité de la plume espagnole de Gilberto Villarroel, mais c'est traduit avec brio en langue française, et ça emporte. À ce jour, 4 tomes sortis.
Mais toujours avec Cochrane.
Toujours avec Cochrane. Il y en a un qui se passe à Paris, il y en a un qui se passe dans les montagnes hallucinées, et j'ai perdu le quatrième qui me sort de l'esprit.
C'est toujours Cochrane contre le mythe.
C'est toujours Cochrane contre Cthulhu. Hein? Parce que de manière régulière, comme dans le mythe, de manière régulière, les grands anciens se réveillent et il y a de la vie sur Terre, et c'était pas dans leur plan, donc ça serait pas mal d'éradiquer toute vie, sauf la leur. Donc la base, ça reste quand même Cthulhu qui fait partie des grands anciens, mais c'est pas le seul grand ancien, et c'est pas le seul ancien. qui sont en dessous des grands anciens. Et du coup, bon, Cochrane veille un petit peu au grain. Et puis, c'était un inventeur de génie, il ne faut pas oublier ça, c'était un très bon amiral, mais c'était un inventeur de génie. Et du coup, c'est... le mythe permet d'expliquer quelques libertés que Cochrane a pris avec les sciences de l'époque et des inventions qu'il a données. Par exemple, le premier bateau à moteur qui a existé, c'est Cochrane. Voilà. Un seul mot d'ordre, lisez.
Une idée de chanson. Un chant de marin.
Alors, bon. Mais j'aimerais que tu me sortes un chant de nain. Parce que dans le mythe, Rlié est une ville souterraine au fond de la mer qui de temps en temps pop-up au milieu des océans. D'ailleurs, il y a eu toute une histoire dans les années 90 avec le grand blop au milieu d'un son maritime qui avait été entendu au milieu du Pacifique. Et cette année, à Clisson, le festival de musique.
Au Hellfest,
merci. Un groupe que j'aime beaucoup est venu. Et c'est Wild Rose, qui est un groupe de musique naine. Non, c'est un groupe de métal, mais qui ont toute une scénographie sur les nains.
Ah bon ?
Et je souhaiterais pouvoir passer une chanson pour rentrer dans les profondeurs, parce que les nains, comme dans le Seigneur des Anneaux, ont tendance à creuser trop profondément et ont tendance à réveiller des bêtes.
Des gros trucs, quoi.
Du coup, je vous propose d'écouter Diggy Diggy Hole de Wild Rose. Ce n'est qu'une reprise puisque la musique est libre de droit, mais leur interprétation est jouissive.
Ok, on s'écoute ça tout de suite sur le 101.5.
I am a boy.
terminer l'émission avec un choix musical de Sébastien qui n'avait pas eu le temps de nous faire de chronique aujourd'hui. Nous étions tous les deux au concert de Michel Polnareff jeudi dernier à Trélazé, concert que Sébastien a trouvé fort émouvant, donc j'ai été puisé un petit peu dans les archives du compositeur. Et nous allons terminer cette émission en écoutant le Lipstick Montage, longue suite musicale pour la BO du film Lipstick en 1976. On vous souhaite de bonnes vacances et on se retrouve à la rentrée sur le 101.5.
101.5 FM.